put that up there.
Alors, nous aurions quelques petites questions à vous poser, notamment un passage de l'Épître aux Éphésiens de saint Paul.
Si vous me permettez.
Je vous lis ce passage. C'est les Éphésiens, chapitre 3, versets 9 à 12. Voici ce qui est dit, « À moi, le moindre de tous les saints, a été donnée cette grâce d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière ce qu'est la dispensation du mystère tenu caché depuis l'origine des siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, afin que par le moyen de l'Église soit maintenant portée à la connaissance des principautés et pouvoirs qui sont dans les régions célestes, la sagesse tellement diverse de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a formé dans le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui assurance et accès à Dieu avec confiance. » Alors la question, c'était comment saint Paul montre ou affirme que c'est par le moyen de l'Église que sont portés à la connaissance des anges du ciel le dessein éternel formé par le Christ Jésus notre Seigneur. Il le révèle l'infinie richesse.
Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est ça, d'abord. Que le mystère du Christ, même pour les anges et les chefs, apporte une grande lumière sur le mystère de Dieu par le Christ. Je crois que c'est ça que saint Paul veut nous montrer. Vous voyez, que le mystère du Christ explicite pour nous quelque chose de tout à fait insondable par rapport à la miséricorde de Dieu.
Les anges qui pourtant sont dans les visions béatifiques.
Les anges, mais dans la vision béatifique, je n'ai pas d'expérience dans la vision béatifique. Il voit Dieu, mais le gouvernement divin, c'est autre chose. Je ne crois pas que les anges aient dans la vision béatifique une vision parfaite du gouvernement divin, pas nécessairement. Et ils ont l'expérience du mystère du Christ qui s'explicite par l'Église. Ça, c'est pas impossible. Ils ont la vision béatifique, mais le gouvernement divin est autre chose que la vision béatifique. Et la vision béatifique et la vision du gouvernement divin se fait progressivement.
Dieu fait connaître aux anges qu'il veut leur faire connaître.
D'accord. Ça ne me fait pas de difficulté. Dans la vision béatifique, n'est pas dit tout du gouvernement divin. Et le gouvernement divin est révélé progressivement. Dieu connaît lui. Ça, c'est autre chose. Dieu n'est pas enseigné par l'Église, autrement dit. Mais les anges sont enseignés par l'Église.
Saint Thomas, dans les motifs de l'incarnation, souligne que ça explicite la souveraine bonté de Dieu pour nous.
Sûrement. Vous voyez, ce qui montre bien que dans la vision béatifique sur la connaissance parfaite de la grâce, mais pas de tous les modes de la grâce.
Autre question. Pourquoi l'Annonciation serait le point de départ de la grâce chrétienne en Marie s'il y a déjà l'Immaculée Conception qui est une grâce provenant des mérites de la croix du Christ ?
Mais c'est l'explicitation de la grâce chrétienne. Que la grâce de Marie soit une grâce chrétienne, je suis tout à fait d'accord. La grâce d'Abraham est aussi une grâce chrétienne. La grâce de Moïse est une grâce chrétienne. La grâce d'Élie est une grâce chrétienne. Ils sont tous la grâce chrétienne. Mais la modalité de la grâce chrétienne s'explicite dans les différents mystères de Jésus. Marie avait-elle la révélation de la très sainte Trinité avant l'Annonciation ? Je n'en sais rien, mais c'était pas dans Israël à ce moment-là explicite. On vivait du Dieu unique.
Alors, dernière question. Vous nous avez montré comment le mystère de l'Annonciation nous révélait la grâce chrétienne. Et plus spécialement la foi chrétienne en nous donnant la vérité de foi et l'engagement particulier dans cette foi qui, pour Marie, prend cette modalité de maternité divine. La modalité de la foi chrétienne associe à une adhésion au mystère, une transformation de la nature humaine, conséquence du fiat pour Marie, réponse de sa foi. Peut-on voir dans le mystère de la croix une explicitation de la modalité chrétienne de la grâce en Marie par le don de l'Esprit-Saint ?
Sûrement. Est-ce que le mystère de la croix était contenu dans le fiat de Marie à l'Annonciation, mais il n'était pas explicite. Il s'est explicité par le mystère de la croix. Et Marie a eu une connaissance nouvelle de Dieu par la croix du Christ. Une connaissance nouvelle de la miséricorde de Dieu sur son Église et sur elle. Et donc une connaissance nouvelle de la miséricorde infinie grande de Dieu. Et cette grâce s'est explicitée jusqu'à la résurrection du corps du Christ. C'est même explicité après. Mystère de la grâce. Et ceci, c'est normal, puisque toute la vie du Christ, pour Marie, a été une explicitation toujours plus profonde de son intimité avec Jésus. Marie a vécu de plus en plus du mystère de l'agneau. Avec le mystère de la croix et le mystère de la résurrection, elle a vécu intensément le mystère de l'agneau. Alors, ce que Saint Jean nous dit sur le mystère de l'agneau, Marie l'a vécu. Sûrement. mystère de l'agneau exige cette explicitation ultime, dernière, du mystère de Jésus par rapport à nous. Et que Marie soit restée après la mort du Christ, c'est pour nous. La grâce de la foi de Marie, elle a progressé toujours dans une union plus forte avec lui, une union plus intime avec l'Église. Et comme elle n'est pas remontée au ciel tout de suite, au début, et nous pouvons aller peut-être même plus loin, parler du moment après la croix, la rencontre de Jésus et de Marie. Oui. Ça me semble faisait partie elle-même du mystère de la croix. Elle a saisi ça dans sa foi, que l'union qu'elle avait avec son Jésus, vivre ce mystère de la croix, vivre ce temps où Jésus disparaît de nos yeux, elle l'a vécu pleinement. Marie a vécu le mystère de la résurrection. Elle l'a vécu. Pour que le corps mystique du Christ soit porté par elle. Elle a été elle-même offerte avec Jésus et elle est ressuscitée, si j'ose dire, au plus intime de sa foi, pas encore dans sa chair, mais au plus intime de sa foi, au moment de la résurrection du Christ. Et elle a vécu nouvel état du Christ, l'avait vu. Et Dieu a voulu que même ce temps après la résurrection du Christ, jusqu'au moment de la descente du Paraclet. Donc il y a eu une croissance dans la la foi de la Très Sainte Vierge jusque et après la descente du Paraclet jusqu'au moment où elle est entrée dans la vision béatifique. Et au fond, nous ne savons pas combien de temps elle est restée. Et je crois que c'est exprès pour nous montrer que le temps de croissance de l'Église, nous ne le connaissons pas. Marie est toujours modèle de l'Église. Or, je ne sais pas jusque quand l'Église, comme je ne sais pas combien de temps Marie reste auprès de Jésus. Donc, c'est, je crois, voulu par Dieu, ça. Que nous ne savons pas le début de sa foi chrétienne nous est révélé, mais pas le terme. Or, une croissance, il faut comprendre le point de départ et le terme. Pour que cette croissance puisse servir de mesure. On ne sait pas le terme. Je trouve ça très beau pour qu'il n'y ait pas un modèle dans le mystère de la charité. Dépendant du bon plaisir du Père. Nous ne savons absolument pas. Alors, nous devons essayer de comprendre par sa foi, Marie a été unie de plus en plus au mystère de Jésus, au mystère de gloire, après avoir été unie au mystère de douleur. Et elle a connu sur la terre, dans sa foi, transformée par cette gloire, mais cette gloire du corps du Christ lui a permis et ceci, je crois, nous montre que nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir le terme de l'Église. C'est un secret caché. Préciser jusqu'où ce mystère de la foi a grandi dans les cœurs de Marie. Le mystère de la croissance reste au-delà de l'histoire. Il ne peut être vu que dans une vision d'éternité. Et de sagesse. Il échappe à la science. La connaissance d'un mouvement, d'une croissance, la connaissance scientifique, c'est-à-dire de la croissance vue en elle-même et pour elle-même. La connaissance de la croissance de l'Église demeure un mystère. Qui est un secret en Dieu et qui demeure un secret en Dieu qui n'est pas révélé. terme de la vie de Marie au point de vue de la foi, qui est le fruit de sa grâce, demeure perdu dans le Christ. Et demeure dans la pure gratuité de l'amour. Nous ne savons pas jusqu'où Marie a dû demeurer dans la gloire. A dû demeurer dans une connaissance de gloire. Et ce que nous savons, c'est que la croissance de sa foi a tout le temps augmenté. Ce n'est pas la croix et la gloire du Christ qui demeurent toujours le terme, mais qui demeure un terme infini, non atteint. Et c'est vrai pour toute vie chrétienne. Ceci nous permet de dire que la croissance de la charité en Marie permet de dire que c'est la vie même de Dieu, la vie même du Christ, qui est la mesure de notre charité, puisqu'elle n'a pas de terme, comme la vie même du Christ. Alors, nous devons essayer de voir les grandes étapes de cette croissance de foi. Suffisamment prêt. Et le terme de la foi, mais nous ne pouvons pas connaître ce terme, il nous échappe. C'est peut-être, voyez, pour dire que la croissance de la charité, la croissance de la grâce, nous ne pouvons pas la déterminer. Elle est pour Dieu, et c'est Dieu seul qui la connaît. Ce qui est vrai de la foi est vrai de l'espérance. Il y a là comme une vision qui se termine dans l'infini de Dieu, puisque notre foi est toute tendue vers la vision béatifique. Elle est pour la vision béatifique. Donc, elle n'a pas de fin en elle-même. C'est peut-être le propre, justement, de la foi. Toute autre connaissance a une fin en elle-même, tandis qu'une connaissance de foi n'a pas de fin en elle-même. Elle reste toujours relativement à Dieu. Et elle n'a pas de fin. Alors c'est peut-être le secret, vous voyez, que la foi nous fait enfants de Dieu. Peut-être. Et Père, la foi nous permet de découvrir la petitesse de la foi. On reste toujours dans la petitesse, en attendant la grande lumière. Mais on demeure dans la petitesse. Il n'y a pas de terme. C'est très étonnant, ça. On est sûr que l'itinéraire de Marie, au point de vue de la foi, est le modèle. Il n'y a pas eu un itinéraire dans la foi plus parfait que celui de Marie. Donc, il est parfait. Mais cet itinéraire ne peut se voir que en Marie. En lui-même, il n'a pas taille. Que c'est la foi de Marie qui n'a cessé de grandir, qui est le modèle. Mais ce modèle est inconnu. Quel a été le caractère de la foi de Marie à la croix? Le caractère de la foi de Marie à l'Annonciation, on l'a déjà vu, c'est de croire au don que le Père nous fait de son Fils bien-aimé. C'est le don, c'est la parole de Dieu qui se fait de plus en plus proche, de plus en plus intime. Parole divine, dite par l'Esprit Saint, dite par le Paraclet, parce que c'est là où je crois on devrait regarder ce que le Paraclet ajoute. Rappelez-vous le terme, ce que notre Seigneur dit. Il le dit explicitement. Vers celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne m'interroge. Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité, mieux vaut pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, celui-ci confondra le monde à propos du péché et de la justice et du jugement. Du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous m'apercevrez. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand il viendra, celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité totale, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il a entendu. Il vous annoncera ce qui doit venir. Celui-là me glorifiera, car c'est de lui. Marie a donc reçu le paraclet dans sa foi. La foi dans la promesse du Christ. Alors, l'ultime étape de la foi de Marie, c'est la foi dans le paraclet, dans le don du paraclet. Il y a l'annonciation comme grande étape, c'est sûr. Et puis, il y a le paraclet. Et le don du paraclet, c'est de tout vivre dans l'intimité. Il n'y a plus d'extériorité, je crois. C'est ça le propre du don du paraclet. Tout est repris dans l'amour, mais uniquement dans l'amour. C'est une intériorité de la parole de Dieu qui est qui n'est plus écouté de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme une parole qui vient de nous. Le paraclet nous donne ce pouvoir divin de faire que la parole de Jésus devienne notre parole. C'est-à-dire qu'on vit de la parole et que la parole est vivante. Elle n'est pas répétée, elle est vivante. Et elle jaillit de nous de cette façon-là. Pour Marie, on en est sûr. Pour l'Église et nous, ben, c'est sûr aussi. Le paraclet nous est donné de cette manière-là. mais nous vivons moins vivants. Marie en vit pleinement. Là, c'est très difficile à exprimer. Parce que vous voyez, vivre de la parole de l'ami pleinement, c'est vivre de la personne de cette parole qui vient du plus profond de nous-mêmes, qui vient de Dieu et qui vient du plus profond de nous-mêmes. C'est la manière. C'est vivre en Jésus. Non seulement par lui et avec lui, mais en lui, par l'amour. Et c'est vrai que l'amour du Christ nous est donné d'une manière tellement profonde que la vie du Christ est notre vie. C'est l'unité. Et qui devient lumineuse au moment de la mort, au moment de la gloire. Oui, je crois que c'est très significatif ça, que Marie n'est pas montée au ciel sitôt la mort du Christ. C'est très significatif pour nous montrer que nous ne demeurons pas nécessairement toujours dans le mystère de la croix, mais que nous demeurons dans les conséquences du mystère de la croix. L'intériorité la plus grande de la vie intérieure, c'est l'intériorité de nous-mêmes entièrement assumée par Jésus. Et c'est le Christ. Et c'est cette intériorité qui nous rend intimes avec Jésus, un avec lui. On ne parle plus, puisque on est un. L'unité. Et cette unité, elle est dans la connaissance. Et par la connaissance, puisque c'est une connaissance divine, c'est tous nous-mêmes qui se trouvent transformés et unis. Qui est vrai de la foi et vrai de l'espérance. L'espérance de Marie à l'Annonciation est très nette. Marie pose une question. Je ne connais point d'homme. La grande question pour réaliser ce qui est demandé par Dieu, Et il lui a répondu de s'abandonner complètement, de s'en remettre entièrement au bon plaisir de Dieu et à la volonté de Dieu. Là, nous avons l'espérance chrétienne dans toute sa force. L'espérance chrétienne ne nous demande pas une réalisation de certains faits. On se repose sur ces faits. Dans l'Ancien Testament, l'espérance est successive. Et quand on atteint un lieu où on peut offrir un sacrifice, on se repose dans ce lieu. Tandis que là, l'espérance chrétienne, c'est le don même du Christ. Il n'y a rien d'autre. C'est lui. C'est le don du Christ, c'est lui-même qui se donne. Donc, l'espérance devient tout intime. Elle n'est pas l'acquisition de quelque chose d'autre. Elle est la transformation de notre être en le corps du Christ, en la sainteté du Christ. C'est le sang du Christ qui s'empare de nous. Et cette unité avec le Christ par l'espérance se fait toujours plus profonde dans ce premier acte. C'est le sang du Christ qui fait l'unité et c'est le Christ lui-même qui fait cette unité. L'unité n'est pas dans quelque chose d'extérieur, mais dans le Christ lui-même, dans la vie du Christ. C'est donc une unité d'offrande, d'immolation à la croix. C'est une unité de gloire, d'espérance dans la résurrection. C'est justement que ce n'est pas un fruit extérieur. C'est la vie même du Christ. Notre espérance chrétienne, c'est la vie du Christ qui grandit en nous et qui prend tout en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est bien ça l'espérance chrétienne. Et c'est le Christ qui vit en Marie. Et le Christ vit en Marie. Comme l'agneau immolé et comme l'agneau ressuscité. Même intériorité, la même unité dans l'amour. Puisque dans l'amour, se donne de telle manière, il est, il y a une intimité très grande de l'amour. L'âme du Christ qui nous transforme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui. Et ceci se réalise parfaitement dans le Christ. Je veux dire, en Marie, se trouve ce être réellement en elle. C'est. C'est le Christ qui venant de Marie comme son fils est intimement uni à elle. Mais dans le mystère de la croix, c'est Jésus qui va jusqu'au bout puisqu'il accomplit la volonté du Père. Éternellement, c'est le Christ qui nous prend dans son intimité la plus forte qui soit. Toute extériorité est comme vaincue, elle est dépassée. Et c'est vraiment l'intériorité qui me semble le plus beau et le plus grand, c'est de voir que je ne sais pas la fin de la croissance, de la foi, de l'espérance et de la charité. Je ne vois pas cette fin en Marie. L'ultime manière dont Jésus lui est donné, mais c'est que je peux dire que Jésus éternellement se donne à elle dans l'unité. Unité de vie dans la grande lumière et dans l'amour. Ce n'est pas une fusion, c'est ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas réaliser, mais dans l'ordre surnaturel, ça peut se réaliser. Puisqu'il n'y a pas d'extériorité. Tout est pris par l'intériorité. Donc, le premier fruit que nous pouvons voir de la charité chrétienne, c'est justement cette foi, cette espérance, cette charité qui aboutit à la croix. Qui aboutit à la résurrection, qui aboutit à l'unité éternelle. Est-ce que la foi chrétienne, l'espérance chrétienne et l'amour chrétien peuvent s'expliquer uniquement de cette manière-là? Non, j'ajoute tout de suite ce que Jésus dit à Marie, femme, voilà ton fils. Donc, à la croix, Jésus lui-même annonce le résultat d'un amour parfait. Il fait que Marie et mère grâce à son union avec Jésus. C'est son union avec Jésus qui est telle qu'elle devient notre